RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec notre homme de Bergerac. Eh oui, c'est pas Cyrano, c'est Maître Yodu qui a
la même nez.
C'est vrai qu'il y a un point commun entre les deux. C'est la longueur du nez, quoi. Ça va, Yodu ?
C'est ça. Ouais, ça roule impeccable, et toi ?
Bah super, je suis content de te retrouver, t'es en forme, tu remets des kilomètres, tu tranquille. Refais même des séances, donc tout va bien, j'ai l'impression.
Ah oui, alors je veux pas m'avancer, mais effectivement, les douleurs au tendon d'Achille semblent légèrement derrière moi, donc
bah, tant
c'est
mieux.
Cool.
T'es plus connu que Cyrano à Bergerac ou non ? Toujours pas.
Mais plus, là plus. D'ailleurs, il devrait au lieu de mettre une statue de Cyrano, il devrait mettre une statue de moi à la place.
Quand même, bien sûr.
Je vais le proposer aux prochaines élections.
Ça sert à rien de retoucher le nez, retoucher la mèche, c'est tout. Ça sera plus simple pour la statue.
Alors il faut enlever l'épée et tu mets une paire de carbone au pied.
Voilà, une paire d'Azix, ça ira bien.
Voilà, c'est
merci à tous pour le soutien. On grandit encore sur les réseaux sociaux, sur le club RMC Running, sur Strava. On est ravis de voir vos activités publiées dans notre club, sur le compte Instagram également. Merci pour le soutien que vous apportez également à l'opération Valencia. Ça part très fort, Johan. On en est ravis. On accompagne quatre champions jusqu'au marathon de Valence, Laure Manaudou, Nasser Boigny, Arnaud Clément et Anthony Mounier. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi participer à l'aventure. Et puis, amis d'RMC Running, il n'y a pas que la course sur route dans la vie. Il y a également le trail avec une championne, une amie d'RMC Running qui est en studio avec moi. Je suis ravi de l'accueillir. Camille Bruyas est là. Elle a fait deuxième à l'UTMB. Salut Camille.
Salut.
Ravi que tu sois là. Merci beaucoup d'être là. On va pouvoir parler de ta deuxième place à l'UTMB. Tu vas nous raconter tout ça. La nuit froide comme ça, au bord du Mont Blanc, pendant que Johan Durand était en train de dormir.
C'est ça.
Tu vas nous parler de la digestion de ce podium. Tu nous parleras également de la récupération, puis de la suite de ta saison. Comment tu fais pour digérer un tel exploit et passer à autre chose, être sûr que tu as bien récupéré pour enchaîner. Ça va être passionnant. Et ce sont les conseils qu'on va donner. On aura également un bon plan matos grâce aux frères chaussettes, Johan. Des chaussettes personnalisées de qualité. Personnalisées RMC Running. Camille les a sous les yeux, tout comme moi. On voit Maître Yodu, le podcast Maître Yodu. C'est magnifique. On vous mettra ça sur les réseaux sociaux. Il y aura des paires de chaussettes à gagner grâce à Lohan Godard, qui est le fondateur de cette marque. Et qui va nous rejoindre. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti, Camille va nous raconter son UTMB.
RMC Running.
Tu es là, tout sourire. On est content que tu sois là, Camille. On est un peu plus d'un mois après cet exploit, cette deuxième place. Comment ça va, tout simplement ?
Bah, ça va bien, très bien, ouais. Ouais, j'ai bien récupéré.
Reposé, t'es en forme ?
Ouais, ça y est, ouais.
Pas de douleur physique particulière ?
Non, tout va bien, pas blessé, le mental frais et le physique aussi, donc voilà, c'est cool.
Bon, bah tant mieux. On ne le cesse de le répéter, on avait eu la chance d'être présent à Chamonix pour cet événement, et Johan a eu un coup de cœur, voilà, pour l'UTMB, ça y est, maintenant il nous en parle toutes les semaines. Il est piqué, malgré les conditions nantesques. Johan, la course de Camille, t'as dû la vivre à fond, du coup, entre le vendredi et le samedi, hein.
Ah bah complètement, ouais, ça fait partie. Bah, c'est vrai qu'on était tout... enfin, on arrivait le mercredi à l'UTMB, mais la course que tu attends, c'est forcément l'UTMB, la grande, quoi, la grande course. Et effectivement, bah, le vendredi, ce départ, avec tu les vois partir dans des conditions un peu délicates, avec une petite brume, et puis il fait pas chaud, il fait froid, tu sens que la nuit va être galère, on annonce de la neige sur les sommets et tout. Et puis toi, tu te réveilles tranquillement à 8h le matin, t'as passé une bonne nuit, ils ont passé une journée dans la montagne, et puis bah ouais, tu suis tout ça, tu suis les exploits, tu suis l'abandon de certains, ça se passe mal pour François, pour Théo Détienne chez les gars, et puis chez les filles, Camille qui va chercher la seconde place.
Ça se passe mal pour Courtenay, la grande surprise d'ailleurs.
C'est vrai, ce qui était assez et fou. Qui abandonne pas, ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi, tu vois, on parle souvent d'ego du champion, mais tu vois, Courtenay a voulu terminer. On a déjà débriefé tout ça. Mais bref, ouais, effectivement, moi, ça reste un souvenir. C'est la première fois que j'allais voir un trail comme ça, un grand ultra ou un grand trail avec des distances pareilles. Et effectivement, ouais, c'est une ambiance qui m'a plu parce que voilà, que ça soit le premier ou le dernier, tout le monde est autant encouragé. C'est tous des champions. J'ai vu des mecs terminer dans des états un peu zombies, hein. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport et d'aller au bout de ça et d'être finisher, c'est déjà un bel exploit. Alors quand tu termines deuxième, c'est magnifique, ouais.
Comment on fait quand on est une championne, quand c'est l'objectif de son année, qu'on voit que les conditions sont mauvaises ? T'arrives à prendre du plaisir malgré tout ? Il y a des moments difficiles aussi pour toi où t'es préparée psychologiquement, mentalement à affronter tout ça ?
Oui, bah non, c'est dur, hein. Faut pas croire que. Ouais. Moi, on m'a beaucoup dit, oh, t'as vu sourire là tout le long.
C'est vrai, d'ailleurs.
Ça avait pas l'air dur. Si, c'est quand même dur. Mais c'est vrai que globalement, cette course-là, j'ai vraiment, vraiment kiffé du début à la fin. Alors, la nuit, effectivement, était particulière avec des conditions vraiment dantesques. Mais voilà, moi, j'en ai fait une force parce que je savais que peut-être, comparé à mes concurrentes, j'étais quand même un peu favorisée. Donc,
c'est ça, ouais.
Voilà, je m'étais préparée à ça. Et aussi sur tout le matériel, on avait beaucoup bossé là avec Salomon pour avoir les bonnes couches et aller en montagne de manière un peu sécuritaire, se changer au bon endroit. Et ça, c'est quand même des stratégies qu'il faut quand même bien anticiper. Et après, voilà, c'est vrai que moi, je savais que en l'hiver, je skie beaucoup avec des conditions bien pires parfois.
Oui, le froid, l'humidité, ça te fait pas peur.
Ouais, exactement. Je pense que, c'est pas que ça me fait pas peur. Et puis, je pense que c'était même un atout par rapport aux autres. Donc, du coup, j'en ai fait aussi ma force un peu mentale là-dessus sur la nuit. Et voilà, et même, je me retrouve au col de la Seine avec de la neige et à trouver ça magnifique, quoi. Et je me dis, ouais, c'est quand même un peu taré.
mais c'est toute la magie de cette épreuve. Et on comprend, du coup, la fascination de tous les sportifs qui pratiquent d'ailleurs cette discipline ou non, c'est de savoir que tu prépares une course pour la fin août, tu peux avoir de la neige ou de la canicule. C'est complètement fou, en fait.
C'est ça.
Tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé et tu peux te préparer comme tu veux. De toute façon, tu ne peux rien prévoir. Donc, quoi qu'il arrive, ça donne du sel et du piment à cette épreuve.
Bah ouais, c'est la magie de l'ultra, moi, comme je dis. Hein. Ouais. Notamment sur le classement, en vrai, tu peux être le meilleur sur le papier et même pas finir la course.
Ouais.
Et ça, ça ne changera pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a que des exemples d'année en année où il y a plein de choses qui se passent et notamment la météo. On est dans un sport outdoor, en montagne, exposé. Donc effectivement, on sait qu'à tout moment, il peut y avoir un changement de parcours. Il y a eu des éditions encore bien pires que ça et qui changent complètement la course. Donc ouais, moi je trouve que c'est vraiment chouette et j'aime ce sport aussi pour ça.
Est-ce que tu adaptes ta stratégie de course aux conditions météo? Quand tu sais qu'il ne va pas faire beau, qu'il y aura du froid, avant le départ, tu te dis « je vais adapter, je vais faire attention, je vais être vigilante à ça » ou ça a finalement peu d'impact sur la stratégie que tu as mis en place?
Non, ce que je disais sur le matériel, clairement, on ne s'habille pas du tout de la même manière. Donc là, après l'UTMB, il y a du matériel obligatoire. Et il y avait le kit grand froid là, qui était activé.
Ouais.
Donc ça a emmené un peu plus de matos. Mais là, pour le coup, nous, on joue un peu avec le grammage sur le matos obligatoire qu'on doit emmener. Là, franchement, on n'a pas joué. Et puis, j'ai tout mis quasiment ce qu'il demandait.
Ouais.
Et après, l'autre stratégie qu'il faut mettre en place, c'est vraiment... se changer au bon endroit. Donc par exemple là c'est les contamines, où là je me suis changée entièrement. On était déjà un peu mouillé en plus parce qu'il a plu quasiment dès le départ aux Zouches, déjà il pleuvait, donc au kilomètre 15-20 là. Et là tu pars pour la nuit, donc là faut vraiment pas oublier quelque chose au ravitaillement. Faut pas oublier toutes tes affaires de pluie, parce que pour le coup après il a plu toute la nuit jusqu'au lever du jour.
Ça c'est dur.
Les hommes passent nuit, mais nous on est passé petit matin au Grand Col Ferret. C'est les heures les plus froides là, le 4-5 heures du matin. Donc c'était vraiment épique. Et pour le coup là t'as plus accès à d'assistance, donc si t'as oublié quelque chose au ravitaillement ou au départ, t'es vraiment... Ouais, je pense que ça peut mal se passer, ouais.
Ça, c'est fort, hein, Johan, hein, affronter des conditions pareilles. La nuit, donc le cumul des deux, entre la pluie, l'humidité et la nuit, c'est... Psychologiquement, il faut être armé, quand même. Hein.
Ouais, c'est là où... C'est vrai que ça... Comme tu le disais tout à l'heure, ça... T'as des athlètes qui sont préparés à ça et d'autres qui aiment moins ça. Et effectivement, ça rabat un petit peu les cartes. Et... généralement c'est là où peuvent se créer des surprises, c'est-à-dire que tu as des athlètes qui vont très bien gérer tout ça, prendre le temps justement au ravitaillement comme elle l'a dit, de pas s'affoler, de rien oublier, de privilégier plutôt la partie je ne tombe pas malade, je fais attention à mes ravitaillements, je m'alimente bien même s'il fait froid et que j'ai pas forcément soif et que j'ai pas forcément le sentiment d'avoir besoin de m'hydrater, mais je le fais quand même. Ça c'est des conditions il y a des athlètes qui aiment, il y a des athlètes qui aiment ces conditions-là, se faire souffrir dans des avec des météos pareilles, ils adorent et effectivement j'avais le sentiment moi que j'ai l'impression que par rapport aux coureurs américains on est peut-être plus, j'avais le sentiment avant la course, je me disais les Français vont avoir un avantage, ceux qui sont nés dans les Alpes qui y vivent, tu vois, par rapport aux coureurs américains ou anglo-saxons qui
ils aiment que le soleil et la sécheresse,
pas forcément, mais c'est vrai que tu te dis voilà, là ça va être les mecs qui font du ski alpinisme l'hiver, je m'étais dit ça va vraiment les aider. Et au final, tu t'aperçois que pas forcément, il n'y a pas eu trop d'incidence. Et c'est vrai que après, c'est propre à chacun, les capacités qu'on a à réussir à pas faire d'erreurs et à garder toute la lucidité qu'il faut quand les conditions sont difficiles. Ouais.
Camille, toi, tu es dans l'élite, tu boucles l'UTMB en moins de 23h30, donc tu croises bah, que des élites, hein, hommes et femmes confondus. Quand tu en croises certains, que tu doubles ou qui te doublent, tu sens la souffrance chez certains, psychologique en tout cas, d'affronter ces conditions et la lassitude, entre guillemets?
Ouais, moi j'ai doublé énormément d'amis dans la montée du col de la Seine, là où il neigeait en haut, ouais, qui était vraiment vraiment frigorifié. Et puis, bah, la plupart ont abandonné derrière. Et ouais, c'est pas des bonnes nouvelles, hein. C'est sûr que
Bien sûr.
j'aime pas les doublés là, mais à la fois, bah ouais, c'est le jeu. Puis certains, bah, tu te dis peut-être ils vont s'accrocher. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que le mélange homme-femme là sur des courses comme ça, voilà, on arrive à s'entraider aussi un petit peu. Donc, mais oui, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont pris froid, ou alors s'ils n'ont pas pris froid sur le coup. Comme disait Johan, sur l'alimentation, ça a énormément joué. En fait, on se rend pas trop compte des fois, mais derrière, la journée peut être compliquée dû à un coup de froid en fait dans la
Bien
nuit
sûr.
sans l'avoir forcément senti. Mais au niveau digestif, il peut y avoir des gros impacts. Donc ouais, des
Et ça t'a
fois.
posé quelques problèmes d'ailleurs sur la fin de course, le côté digestif d'ailleurs.
Ouais, je sais pas si c'est le coup de froid ou si c'est aussi la quantité de sucre
Ah ouais, bien sûr.
que j'ai ingurgité, que j'avais peut-être pas assez entraîné assez tôt. Voilà, c'est des pistes sur lesquelles je réfléchis encore et j'aimerais m'améliorer. Mais donc voilà, il y a eu certainement un mélange de tout ça, plus bah, les troubles digestifs un peu inhérents à l'ultra. Hein, j'ai l'impression aussi que voilà, donc ça m'a pas empêché de m'alimenter comme ça m'avait vraiment empêché à la Hard Rock l'année dernière en altitude. Mais oui, c'est sûr que là, il y a un point quand même à travailler. Et ouais, les 50 derniers kilomètres, j'ai vraiment eu du mal à m'alimenter et à garder tout ce que j'avais besoin.
Raconte-nous le scénario de course parce que bah, je te le disais en coulisses, moi j'ai suivi ça de loin. Johan était sur place, mais moi j'allume la télé sur l'équipe qui était le diffuseur et qui a fourni un
C'était
travail
chouette, ouais.
exceptionnel grâce à
Très bien
l'UTMB.
fait.
C'est passionnant à suivre. Ce que je te disais, quand tu tombes dessus, tu peux plus décrocher parce que c'est vraiment une course que tu suis comme ça en temps réel, donc c'est assez hallucinant. Et moi quand je me branche dessus, il devait être 7 ou 8 heures du matin et vous êtes vraiment au
Ouais,
coude à
10.
coude tout ensemble. Il y a Route qui est juste à tes côtés. On se dit non, mais ça va avoir une bataille acharnée tout au long de la journée. Courtenay en perdition. Et ça, pour vous, j'imagine que c'est aussi une surprise. Courtenay, elle est exceptionnelle. Elle peut même bastonner avec les hommes. On se demande si un jour elle va pas gagner un ultra hommes et femmes confondus. Donc elle a un
Ah
niveau
bah.
stratosphérique. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, qui faites partie des favorites, de voir la grande vedette de la discipline en perdition? Est-ce que ça crée quelque chose chez toi? Est-ce que tu te dis égoïstement, bah, y a une place sur le podium qui se libère et moi, mine de rien, j'ai un coup à jouer, peut-être même pour la gagne? Ou est-ce que tu es dans l'empathie avec elle et tu te dis, bah, je suis triste pour elle qu'elle n'aille pas au bout et qu'elle ne soit pas au max de ses possibilités.
Ouais, bah, les émotions, elles sont mitigées, hein. C'est ni noir ni blanc, c'est un peu
Ouais,
de
c'est un peu de tout,
partout.
ouais, bien sûr.
Effectivement,
Parce
bah
que tu es
moi, en
obligé d'être
fait.
concentré sur toi aussi, donc.
Ouais, complètement. Moi, en fait, j'étais vraiment déjà. Je savais qu'il allait y avoir une bataille Route-Courtenay. Route
Ouais,
était là pour gagner. Elle a
bien
été
sûr.
deux l'année dernière.
Ouais.
Voilà, vraiment, les deux, là, je savais que ça allait batailler. Et puis moi, je me disais, bon, allez, si j'arrive à être dans le jeu, là, ça peut être vraiment cool.
Bien sûr.
Et puis, c'est deux grandes dames que j'apprécie énormément, que je connais très bien. Donc voilà, c'était avec grand plaisir de pouvoir participer à la fête avec elle, mais je savais pas si j'en étais capable. Donc déjà, j'étais vraiment surprise toute la nuit de, bah voilà, je double route dans la nuit qui est moins bien. Pour la petite anecdote, en fait, je me rends pas compte que je la double.
Ah
Donc elle me dit allez Camille, et moi je lui réponds même pas. Donc elle se
ouais?
dit oh là là, franchement là, elle est vraiment pas cool.
Ah ouais?
Ouais, vraiment.
Et comment ça se fait, tu l'as pas vu?
Ouais, je l'ai pas vue. En fait, il faut savoir qu'on était quand même déguisés en cosmonautes
Ouais,
là, et
c'est vrai,
personne nous reconnaissait.
ouais.
Moi, la plupart des gens, c'est je les reconnaissais moi. Enfin, en fait, c'est hyper dur de nous reconnaître dans la nuit,
Bien sûr.
déjà en temps normal. Mais là, on était vraiment tous déguisés avec un
En
caouet
mitouflet, tout ça, ouais.
noir quasiment pour tout le monde. Donc
Ouais.
c'était hyper dur même de savoir quelle marque tu courais. Enfin ouais,
Ouais.
c'était un peu le retour en tout cas des copains. Ils me disaient ah, heureusement que tu m'as vu. Je dis oui, bah, moi je te voyais, mais eux c'était très compliqué. Et ouais, Route, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, elle m'a encouragée, donc j'ai loupé quelque chose. Je sais pas où j'étais dans mes pensées.
Ouais,
Et
bien sûr.
donc voilà, avec grand regret, parce que c'était pas du tout ma volonté de
Non,
la
non,
snober à ce moment-là.
bien sûr.
Et donc voilà, donc j'apprends à Courmayeur qu'en fait, je l'ai doublé dans la descente. Je dis mince, je lui ai rien dit, mais c'est pas grave. Et que Courtenay, je suis vraiment pas loin. Donc là, voilà, moi je me dis bon,
On
c'est
te dit qu'elle
cool.
est pas bien, tu t'en rends compte comme ça en course?
Oui, on me dit que c'est pas la Courtenay des grands jours parce qu'effectivement une Courtenay des grands jours, elle aurait fait. Moi, j'ai fait un départ très prudent, volontairement, ouais. Et avec l'histoire que j'ai de ma pathologie artérielle, donc c'était vraiment volontaire et j'ai suivi le plan. Elle est à l'attaque dès le début, sa manière de courir, c'est comme ça. Donc là, oui, je me disais que j'étais partie un peu plus vite que prévu, mais aussi elle était un peu moins en forme. Après la nuit, elle a pris froid aussi, donc. Voilà, tout tournait un peu à mon avantage pour avec les deux, avec Ruth et Courtenay. Donc voilà. Et après, bah, c'est vrai que le réveil matinal, il est génial là parce qu'on se retrouve toutes les trois. Donc Ruth me redouble. Là, elle me fait une petite blague en me disant je t'encourage pas parce que tu m'as pas encouragée. Donc on rigole un coup. Et voilà. Et après, du coup, bah, moi, j'essaye d'accrocher Ruth pour aller chercher Courtenay justement. Donc ça, c'est voilà. Moi, je me suis un peu plus employée. J'y ai laissé quelques cartouches après, mais je me suis dit vas-y, c'est le fun là, il faut rester dans la course, sinon si tu commences déjà à te poser des questions ici, c'est compliqué. Donc on revient sur Courtenay qui moi est une amie de team, hein, donc je la connais très bien, donc voilà.
Vous avez le même équipementier Salomon.
Exactement, donc on s'entraîne ensemble et voilà, et je comprends assez vite qu'elle est pas dans une grande journée. Donc on discute un peu et puis voilà, donc j'espère vraiment, moi je le dis, j'espère que tu vas arriver à rester avec nous là parce que ce serait vraiment cool. En fait, moi ce que j'ai vraiment ressenti à ce moment-là, c'est ouais, la course femme là, elle est extraordinaire.
Ouais.
On est quand même 10 ou 12% au départ. Le plateau élite, il est toujours présent, mais c'est rare quand il y a des courses, des courses comme ça. Et là, je me suis dit, wow,
étoiles féminines du trail sont réunies, avec en plus une Française qui est là. Donc pour Public Français, c'est génial. Ouais. Enfin, le scénario, il pouvait pas être mieux.
Exactement. Et là, je me suis dit, bah, juste profite parce qu'en fait, des scénarios comme ça, bah, il va pas y en avoir tous les ans, quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment ça qui était cool. Ruth était complètement d'accord avec moi et elle vraiment dans sa mission d'aller gagner, quoi. Donc j'ai essayé de l'accrocher, puis après, c'est un peu envolé. Et j'espérais que Courtenay, clairement. Arrive à rester troisième et
avoir un beau podium.
Et avoir un beau podium, effectivement. Bah après, Katerina est une très belle athlète.
Bien sûr.
Mais ouais, non, c'était fou. Franchement, c'était vraiment, vraiment fou.
Et est-ce qu'à un moment, tu te dis, cette année, c'est pour moi, je peux aller le chercher? Ou est-ce que tu n'y as pas pensé, tu es resté focus et puis après, Ruth s'est détachée, je crois, après Champé. Donc, ça a été plus facile pour elle. En tout cas, elle avait tout missionné. Comme tu l'as dit, elle était en mission pour aller le gagner vu qu'elle avait fait deuxième place la saison précédente. Tu as cru à la victoire ou finalement, le scénario n'a pas fait que tu as pu y espérer?
Ouais, non, j'y ai cru, j'y ai pensé, on me l'a dit.
Ouais.
Et c'est un scénario que je n'avais clairement pas anticipé. Donc, je pense que mentalement, il me manque ça pour aller
gagner. Tu as trouvé favorite à un moment, c'est ça?
Pas favorite à aller gagner.
Ouais.
S'autoriser à aller gagner. Je pense que voilà, bon, il faut que je redébriefe encore un peu plus de tout ça. Mais Ruth, elle était clairement conditionnée pour faire ça. Et il m'a manqué ça. Donc j'y ai cru clairement entre Champé et Trian. Je ne perds pas beaucoup de temps là, sur cette section-là. Donc je me dis, ah ok, bon, je ne suis pas bien. Je suis en train de payer, le fait qu'on revienne sur Courtenay. Là, et c'est vrai que j'ai laissé des cartouches. Donc voilà, j'essaye de m'accrocher et puis après, bah, je comprends vite mentalement que je suis déjà trop contente d'être là et dès que je me dis, vas-y Cam, tu peux gagner là et il faut que tu t'accroches, tu peux y aller. En fait, j'ai mon cerveau qui dit, non mais c'est déjà génial ce que tu fais, c'est déjà ouf ce que tu es en train de vivre. Et bah voilà, là, je comprends vite que mentalement, il me manque ce petit truc pour aller gagner en fait. Là où Ruth, elle, c'était l'opposé, elle était dans une mission pour aller gagner. Mentalement, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter.
Ouais.
Donc voilà, je pense que ça s'est joué avec autre
détail.
Tu penses
que physiquement, t'étais armé pour aller le gagner ? Ce jour-là, t'étais dans les mêmes conditions que Ruth, t'avais le même niveau, entre guillemets, et avec un peu plus de mental, de confiance et de conviction que tu pouvais gagner, t'aurais pu aller chercher plus ?
Il n'y avait pas que ça, mais ça a été un bon facteur, ouais, je pense. Ça a été un bon facteur que je n'avais pas du tout anticipé.
Ouais, c'est intéressant, hein.
Ouais.
Je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, on peut le transposer à Johan, qui a été athlète de haut niveau, c'est s'autoriser à gagner et croire qu'on peut gagner. Ça fait partie aussi du sport de haut niveau. Moi, j'ai tout de suite l'exemple de Jimmy Gressier qui me vient en tête, champion du monde du 10 000. Nous, ça fait 6 mois qu'il nous dit dans RMC Running. Parfois, il a été moqué, raillé parce qu'on s'est dit c'est quelque chose d'impossible. Il y a cru jusqu'au bout, il allait le chercher. Mais s'autoriser à aller gagner et se dire qu'on est capable de le faire, c'est quelque chose, Johan.
Bah, surtout quand. Alors, après, sur de l'ultra, tu es quand même un petit peu sur un fil. Hein. Tu sais que c'est une épreuve autant mentale que physique et que. Effectivement, tu peux pas toujours en mettre, tu vois. Sur un 10 000, tu peux prendre des risques. En ultra, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que Dans le cas de Camille, effectivement, elle a beaucoup de deuxième place qui font que elle a pas, voilà, elle a fait deuxième cette année, elle a fait deuxième à l'Hard Rock l'année dernière, elle a fait deuxième au Grand Raid en 2023,
deuxième et en peut-être 2021 à l'UTMB.
Deuxième en 2021 à l'UTMB. Donc il lui manque peut-être la course référence. Et pour le coup, à l'exemple de Jimmy, est pas mauvais parce que Jimmy, je pense que le fait de gagner la Diamond League de Lausanne 3 semaines avant, qui est une grosse course face au mec qu'il allait retrouver au championnat du monde et de les battre, c'est pour moi le déclic, il est là parce que il se fait battre au championnat de France par Yann Schrub. Alors effectivement, dans son discours, il te dit ouais, moi je veux être champion du monde, je veux être champion du monde, mais malgré tout, il te faut quand même une course référence qui te mette en confiance pour te dire ok, en fait j'y crois, je suis légitime, j'y crois au plus profond de moi. Et je pense que pour Jimmy, il y a eu cette course référence qui gagne là la Diamond League de Lausanne 3 semaines avant en battant les mêmes mecs qu'il allait retrouver 3 semaines après au championnat du monde. Et dans le cas de Camille, je pense qu'il lui manque peut-être encore de basculer et de se dire ouais, bah je suis légitime, je peux vraiment gagner et dire stop à ces secondes places, parce que sinon c'est la poulie d'or du trail dans quelques temps, hein.
Ouais, non mais c'est sûr, bah on en avait déjà parlé au mois de juin, hein, c'est voilà, et là tu vois c'est pas loin d'être un déclic l'UTMB. C'est vrai que j'ai...
Parce que 30 minutes, c'est rien au final sur
23
heures.
Sur 23 heures, c'est rien. Et non, c'est sûr que là, il y a eu un déclic. Et maintenant, je pense m'autoriser à y croire, un peu plus l'anticiper. Et le problème, c'est qu'en ultra, bah, voilà, on ne fait pas des courses non plus tous les week-ends.
Non, bien sûr.
Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai gagné beaucoup de 100K, en fait. Et c'est la distance sur laquelle, là, il n'y a aucun problème. Je m'autorise à gagner. Je sais que c'est une distance qui me va parfaitement. Sur le 100 miles, j'étais clairement à la recherche de confiance que j'ai acquis clairement à l'UTMB, là où je finis pas détruite, où je fais une course pleine, tout va bien, et ce qui n'était pas le cas sur clairement toutes mes deux autres deuxièmes places. Donc, ouais. Donc voilà, là je pense qu'il y a un déclic qui va se faire, c'est sûr, mais voilà, l'expérience sur ce genre de course, elle s'acquiert lentement sur l'ultra. Donc voilà, un peu de patience à l'image de Route en fait, qui fait 2 l'année dernière et qui en fait prépare sa gagne à l'UTMB cette année. C'est pas, même pas de l'année dernière, quoi, elle le prépare depuis 3 ou 4 ans. Donc voilà, moi maintenant, je suis vraiment dans une optique de me dire ok, là j'enclenche un processus pour aller gagner l'UTMB dans 2, 3, 4 ans et voilà, et me laisser un petit peu sur, et ça se trouve ce sera plus rapide, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça se construit, lentement.
Mais c'est ton témoignage et je te remercie parce que je le trouve passionnant, effectivement, de se dire que tu as déjà fait deuxième en 2021, comme si c'était, bon, on sait tous que c'est un exploit monumental de terminer deuxième d'une course aussi prestigieuse, donc c'était le plaisir à ce moment-là. Et cette deuxième place, j'allais te poser la question, quelle est la différence entre 2021 et là ? C'est que là, finalement, à froid, tu as peut-être plus de déception en te disant que tu aurais pu, mais ça provoque ce déclic de te dire « je suis légitime, je peux le faire », et ça doit devenir un objectif pour les mois et les années qui viennent.
Ouais, complètement. Ouais, rien à voir avec 2021, où 2021, j'étais la surprise. Ouais, j'étais hyper contente, mais au final, j'avais quand même énormément souffert. J'avais mis très longtemps à m'en remettre. Ouais. Enfin, voilà, c'était vraiment mes toutes premières expériences en ultra. Là, rien à voir. Je vis la course vraiment différemment. J'ai une saison un peu compliquée là aussi, qui était l'aboutissement un peu de ouais, ok, bah là, je confirme que mon niveau, bah voilà, en 4 ans, il s'est passé plein de choses et qu'en fait, bah voilà, c'est encore là. Et puis le niveau a clairement augmenté aussi, donc. Donc ouais, non, c'est quand même globalement une grosse satisfaction avec, oui, effectivement, le petit regret qui est là, mais qui va me faire une force pour la suite, c'est sûr et certain.
Parce que tu as toujours, malheureusement, cette petite épée de Damoclès, on en avait parlé en juin, de cette blessure lancinante qui peut te reprendre à tout moment, que tu dois toujours avoir un peu dans un coin de ta tête, à l'entraînement comme en course. On t'avait reçu quand tu avais fait tous tes sommets à 2000, là, pour te rassurer aussi,
sommets, ouais.
Les 14 sommets en vue de l'UTMB, mais... Cette blessure, c'est-à-dire que au départ à Cham, tu penses à cette blessure. Tu te dis, pourvu que ça ne m'embête pas et que je puisse être au maximum de mes possibilités, quoi.
Ouais, complètement. Bah oui, elle fait partie de moi, là. Donc maintenant, il faut que je joue avec ça. C'est ce qui a guidé toute ma saison, avec des choix que j'ai faits qui n'étaient pas toujours faciles à prendre. Et il a fallu composer vraiment au jour le jour, avec notamment les 14-2000 où je voulais... On en avait discuté, hein, prendre un dossard ou pas prendre un dossard. Ça a été vraiment un choix, préparer l'UTMB sans mettre trop de dossard. Voilà, c'était un challenge que je voulais me lancer et que je regrette absolument pas. Et oui, non, je suis au départ. Volontairement, je prévois un départ lent parce que je sais que avec cette pathologie-là, je ne peux pas partir trop vite. Et en tout cas, le risque d'hypothéquer ma course est trop grand. Donc, on avait vraiment travaillé là-dessus sur les allures de course. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'ai eu mal les 3-4 premières heures et puis en fait après la douleur a complètement disparu une fois que c'est lancé et que les allures ultra me correspondent. Ouais. ça a été parfait. Donc effectivement, j'avais des appréhensions énormément là-dessus qui se sont avérées... avérer que c'était une belle journée. Quoi.
C'est intéressant que tu nous prennes l'exemple de Route, donc, qui a gagné cette année en 22h56 minutes et 23 secondes. Intéressant parce que nous, on a eu la chance, il y a quelques jours, l'épisode est en ligne d'ailleurs, de recevoir Joseph Mestrallet, le data scientist qui l'a accompagné. Il l'a accompagné, elle et Tom Evans, les deux vainqueurs. L'histoire est assez folle d'ailleurs parce qu'il bossait avec Route. Il a rencontré ensuite Tom Evans, qui l'a contacté. Tom, après son abandon, ou plutôt ouais, son abandon à l'UTMB l'année dernière, il lui a dit « il faut que tu m'aides à gagner l'UTMB ». Ils ont mis en place un protocole autour des data, le champ de données, mais quelque chose qui leur a permis aussi psychologiquement de se donner le droit d'aller gagner l'UTMB. Est-ce que tous ces gains marginaux, tu y penses ? Là, est-ce que tu as basculé, ça y est ? Est-ce que tu te dis « il y a peut-être des choses que je peux aller chercher, aller mettre en place pour augmenter encore mon niveau et aller m'offrir des victoires de prestige ?»
Ouais, il y a une grosse discussion autour des datas. Alors moi, je ne vais pas dire que je vais passer full data parce que je suis complètement à l'opposé.
Ah, c'est une démarche entre... particulière. Hein. Voilà. Enfin, c'est sûr, c'est qu'il faut y croire, accepter ouais. d'être guidé et nous expliquer tout ce qu'ils calculent, les pacing sur les portions de course et tout. C'est vrai qu'il y a un côté un peu militaire où tu perds un peu d'instinct qui est inexorable. Tu es obligé de t'y adapter. Quoi.
Ouais, complètement. Après voilà, je pense que maintenant, on a toutes ces données. Il y a plein de gens qui travaillent dessus et Route est un très bon exemple parce qu'elle a énormément bossé avec donc justement avec Joseph, avec plein d'autres spécialistes, avec un gros entourage, mais ça l'empêche vraiment pas, et elle le dit clairement sur les réseaux, ça l'empêche vraiment pas de rester à l'écoute d'elle-même.
Bien sûr.
Et typiquement les allures de course qu'ils avaient prévues pendant la nuit, on s'est fait un débrief toutes les deux, elle me dit bah tu vois clairement avec les conditions météo j'ai pas du tout suivi le plan
mais il est totalement d'accord avec ça, hein, d'ailleurs.
Exactement.
Lui il dit que l'instinct ça reste toujours important pour des sportifs comme vous.
Exactement, donc je pense qu'en fait c'est juste une histoire de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser à ta manière à toi, mais comme beaucoup de choses même dans l'entraînement pur, hein, et que oui, ça peut être un bon outil. Moi, c'est sûr que, en plus, je peux même pas dire que j'ai pas du tout travaillé avec ça. Les spécialistes de ça chez Salomon, justement, par rapport à ma pathologie, c'était ma demande de vraiment établir un plan de course, surtout sur la première partie, qui me permette d'aller à des allures, de rester un peu dans le podium, en tout cas dans la course, sans me faire mal. Donc, tu vois,
c'est rester plutôt... un peu en dedans et garder du
Exactement.
Jus pour la suite, quoi.
Ouais, et puis surtout, bah, pas hypothéquer ma course parce que je savais que si j'avais trop de douleurs qui après me déclenchent des boiteries, et puis ça, c'est ce qui s'est passé pour aller chercher mon ticket au Mont Ventoux. C'est la course, en fait, je peux l'hypothéquer comme je peux aussi très bien la gérer parce que la course ne se joue pas au départ, même si on a l'impression que ça se joue au départ, que tout le monde va très vite, mais en fait la course elle se joue pas là. Donc voilà, c'est des petits curseurs que je peux complètement améliorer, mais sans oublier que bah voilà, on reste, l'athlète doit rester au centre de son projet et essayer, les datas sont intéressantes. Moi, je les utilise aussi un petit peu en comparatif, en fait, aussi beaucoup. C'est d'avoir des données sur se dire, ah bah ouais, il y a 2 ans, je faisais ça, maintenant, je suis comme ça. Comment j'avais fait pour préparer l'UTMB il y a 4 ans? Alors, tu vois, en termes de kilométrage, j'étais moins structurée, mais je trouve ça toujours cool d'avoir plutôt en comparatif et pour apprendre à se connaître,
tout simplement. Et voir l'évolution de tes chronos dans les zones. C'est-à-dire qu'en telle zone de fréquence cardiaque, tu peux garder cette allure et puis peut-être que l'allure progresse au fur et à mesure des années. C'est un vrai marqueur de progression aussi. Ça peut te voir que...
Ouais, de progression, de voir si on est en forme, de gérer aussi sa récupération, de gérer ses charges d'entraînement. Il y a plein de... Éviter les blessures aussi, ça peut vraiment faire partie du processus, donc il y a plein d'utilisations qui peuvent être faites. Il faut juste, bien le mener et bien l'appréhender, je pense, par l'athlète.
Johan, plusieurs questions pour toi déjà. Qu'est-ce que tu as pensé du départ ? Est-ce que tu l'as vu ce départ ? Est-ce que tu as trouvé, comme Camille, est-ce que tu as constaté que ça partait très fort ? Toi, l'athlète qui court à plus de 20 km/h, est-ce que tu as été bluffé de voir des mecs comme ça et des filles partir à toute allure alors qu'ils allaient s'envoyer 170 bornes ? Et puis après, j'aurai une autre question sur les data justement.
Ce qui m'a bluffé sur le départ, c'est qu'il a fallu que je marche 3 km pour trouver une place au bord de la route.
Ça, c'est sûr. Ouais,
tellement il y avait de monde au bord de la route, j'ai dû me mettre à la sortie du village pour pouvoir. À la sortie d'un rond-point pour pouvoir voir à peu près les coureurs, parce que sinon tu es en troisième ligne et tu vois rien. Donc je te jure, c'est vraiment ambiance Tour de France. Et effectivement, tu sens qu'il y a t'as de l'émotion, t'as un peu tout, tu ressens une ferveur populaire. Alors là où j'étais, tu vois, on n'entendait pas la musique, on n'a pas entendu le coup de pistolet ou autre, le départ, parce que j'étais quand même vraiment assez loin. Hein. Pour le coup, c'est vraiment ce que je dis, c'est pas des bêtises. J'ai dû vraiment me mettre à la sortie du village. Et effectivement, ouais, tu sens que ça part vite, mais Tu sais que enfin c'est 170 bornes donc il faut quand même faire attention et effectivement il faut juste prendre conscience mais c'est comme sur un marathon que cette euphorie du départ, cette tension, tu lâches les chevaux, c'est des mois et des mois et des mois voire des années de préparation pour participer à l'UTMB et ça là on parle des athlètes élites mais c'est pareil pour tous les athlètes derrière, c'est il faut participer à des courses, il faut gagner des points, il faut tirer au sort, enfin bref, c'est souvent une galère sans nom pour y être. Donc là c'est le jour J et tu sens que les mecs sont quand même ne partent pas forcément trop vite mais par contre d'un point de vue émotionnel, ils prennent une décharge et enfin moi j'en ai vu qui était presque à la limite de pleurer voire quelques larmes dans les coureurs et là tu perds quand même de l'influx même si tu pars pas vite, tu perds de l'influx d'un point de vue émotionnel où justement cette course elle te prend aux tripes pendant les 10 premières minutes jusqu'à la sortie du village où, où c'est vraiment ambiance Tour de France et effectivement sur cette partie là je pense que tu peux, si t'es pas prêt t'y laisses un petit peu des plumes parce que d'un point de vue émotionnel ça te prend et t'as une décharge et une montée d'adrénaline. Comme sur un marathon, sur un départ, sur des grandes avenues type New York, Londres ou même Paris, qui peuvent pendant plusieurs kilomètres te faire monter un peu les poils et justement te, pas te fatiguer, mais te t'user un petit peu mentalement, quoi.
On est toujours touché quand on est athlète élite par tout le protocole, le départ, la musique, le coup de pistolet. T'as toujours ce truc, l'adrénaline, le cœur qui monte, enfin, le rythme cardiaque.
Ouais, bah oui, je pense de toute façon tu peux pas être imperceptible à tout ça. C'est moi ce que j'ai beaucoup ressenti sans parler trop de stress et de tout ça, c'est juste que bah en fait, je me suis rendu compte que ouais, être sur la ligne de départ bah pour la plupart c'est quand même déjà un bon chantier et on a de la chance en fait déjà de, d'arriver en bonne santé sur cette ligne de départ, ouais. Que c'est voilà, moi ça faisait 4 ans que je l'avais pas fait, c'est une volonté hein, aussi de pas y revenir tous les ans pour justement créer cette envie-là. Mais ouais, juste je me disais bah faut profite parce que en vrai ouais c'est pas si simple de, d'arriver et puis ça peut ouais mettre du temps donc ouais juste profiter, effectivement il y a tellement de monde que oui tu vas forcément trop vite, tu le sais.
Ouais, bien sûr.
Et puis voilà, faut attendre un peu que la nuit arrive et que ça, et en plus le parcours est très très roulant quand même donc ça court vite et il faut juste attendre un peu que ça passe et rentrer dans la nuit tranquillement un peu ouf. Ça y est, là, je suis...
C'est sûr. C'est une pression populaire aussi, parce que sur la ligne de départ, hommes et femmes confondus, tu étais peut-être la meilleure chance française. Donc, on le savait. De toute façon, tu avais déjà fait deuxième, tu avais des références. Tu étais un peu la française qu'on pouvait voir espérer triompher comme ça à l'UTMB. Tu l'as ressenti comme une pression. Tu l'as au contraire pris positivement parce qu'il y avait les encouragements des gens tout au long du parcours. Comment tu l'as vécu, ça, alors ? L'effet à domicile.
Ouais, non, je l'ai pas du tout vécu comme une pression. J'ai pas, honnêtement, j'ai pas trop regardé, bah voilà, si j'étais favorite, pas favorite. Moi, déjà, j'étais quand même contente d'être en bonne santé sur bien cette sûr. Ligne de départ après tout ce qui s'était passé en début d'année. Donc voilà, j'ai pas.
Mais
j'ai
quand
pas
t'es à la lutte, quand on t'encourage, on te dit allez Camille, tu peux le faire. Enfin, j'imagine au-delà de ta team, tous les spectateurs lambda qui te voient, qui disent allez, c'est peut-être cette année tout
ouais.
C'est
vraiment une force pour moi. Force. Ouais, c'est vraiment une force. Et puis ouais, franchement, j'ai été hyper impressionnée justement de cette fierté nationale.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
La première fois, j'ai jamais fait des championnats du monde parce que c'est vrai que je cours peu sur le système fédéral, voire bien pas sûr. Du tout. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on était au championnat du monde et c'était aller la France
ouais, c'était
quoi.
Le Tour de France quoi.
Et ouais, j'étais ouais. Là ouais, ça c'est quand même j'avais jamais vécu ça et ouais non, et après bon, j'ai compris qu'effectivement en fait en termes de français sur toute la semaine du TMB il n'y avait pas eu non plus d'énormes performances donc non en fait j'étais juste ravie et puis les gens étaient trop contents pour moi donc c'est ouais c'est non c'était que de la bienveillance et c'était vraiment chouette.
Avant de basculer, de parler de la digestion et de donner des conseils, l'émotion à l'arrivée. Quand tu t'arrives comme ça, notre ami Ludo Collet qui t'attend, le speaker, comment ça se passe ? Quel souvenir tu en gardes alors ?
L'arrivée, c'est assez fou, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde cette année. Enfin, je pense que c'est de plus en plus, mais par rapport à 2021, déjà j'avais trouvé qu'il y avait énormément de monde, mais là c'était... Ouais, c'est vraiment, on est presque.
Et puis toi, t'arrives à un bon moment, t'arrives samedi après-midi, il oui. y a plein de monde.
Tout le monde est en terrasse, ouais, c'est parfait. Il faisait l'apéro. Beau, bah exactement. Ouais, ouais. Non, c'était vraiment fou. Moi, je me suis dit, ah ouais, mais là, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment fous. Et c'est plutôt ça que je garde vraiment comme image. C'est, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi, ouais. Vraiment.
Comment on digère un truc pareil ? Pour tout te dire, on a monté une OP UTMB, nous aussi, avec quatre coureurs amateurs qu'on embrasse et qu'on salue d'ailleurs, qui étaient sur quatre formats différents. Il y avait Claire, il y avait Laurent, il y avait Romain et il y avait Damien. Ça partait d'un 40 bornes jusqu'à l'UTMB, donc dans les conditions nantaises que tu as connues. Comment on fait pour digérer un truc pareil ? Un marathon, c'est dur à digérer déjà, mais alors un UTMB, même pour une championne, combien de temps tu prends justement pour souffler, récupérer mentalement et psychologiquement ?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles et je suis en train encore plus de confirmer qu'il n'y a pas vraiment de règles parce que...
Tu t'écoutes beaucoup alors ?
Ouais, vraiment, je pense que la clé, c'est de s'écouter, de voir un petit peu, de faire vraiment à l'envie le plus possible. On dit quand même qu'il y a une règle de nombre d'heures en nombre de jours. Donc voilà, je pense que
C'est le truc de Yodu, ça. Il adore ça.
C'est en kilomètres. Nombre de jours en kilomètres.
42
kilomètres,
42
ouais,
jours.
Ouais, bah nous, on va plutôt dire, voilà, tu vois.
À vous, sinon, vous coupez un an et demi. Moitié d'année quasiment. Donc c'est problématique, ouais, ça, c'est sûr.
Donc voilà, il va y avoir cette règle-là. Certains vont prendre beaucoup moins de temps, d'autres plus de temps. Et moi, je le vois, chaque ultra, c'est vraiment différent. Là, j'ai récupéré étonnamment vraiment bien de l'UTMB. Mais voilà, ça se comprend aussi. C'est vrai que ma préparation était différente. J'ai mis moins de dossards. La course, mentalement, s'est bien passée aussi. Donc, t'es un peu moins dans ce down mental que tu peux avoir après certains ultras. Physiquement, pareil, je ne suis pas arrivée blessée. Alors oui, mal de partout, mais juste des douleurs voilà, inflammatoires, tout ça. Donc voilà, j'ai assez vite compris que j'allais récupérer plutôt bien. Et après, c'est vraiment le mental qui te guide un peu sur OK, est-ce que j'ai envie de courir ? Est-ce que j'ai pas envie de courir ? Est-ce que j'ai envie de sortir, de faire du sport ? Et il faut vraiment se laisser s'écouter. Et moi, souvent, je switch quand même assez vite. En fait, j'ai même pas le temps de courir. Quoi,
l'envie revient vite de courir, de faire du sport en tout cas, du vélo, du yoga, parce que toi, tu es aussi prof de yoga.
Ouais, le yoga, j'ai repris, j'ai donné mes cours la semaine d'après.
Ah, direct,
donc ouais, j'ai repris quasiment direct. Ça, c'est vrai que c'est justement, j'en profite pour faire vraiment plein d'autres choses, plein d'autres projets dans ces périodes-là. Et après, vite, ça veut tout et rien dire. Moi, je sais pas, j'ai dû ressentir le vélo après une bonne dizaine de jours à l'horizontale complet. Et je suis allée faire 20 bornes et j'étais essoufflée. J'ai dit, là, t'as pas récupéré, quoi. Donc voilà, et après, c'est vraiment à l'opportunité, le temps que j'ai, en fonction de ce qui se passe et des projets. Mais la chose aussi que j'avais un peu mis en place cette année, mais que j'avais déjà fait quand je travaillais en tant que kiné, c'est vraiment, j'avais aussi plein de projets sur le mois de septembre.
T'as
volontairement.
Fait, des projets pro dehors de l'ultra. Quoi.
Exactement, pour me dire.
Il y a de bonnes choses qui arrivent.
Exactement, un peu. Enfin, j'avais remarqué qu'en fait, sur tous les autres ultras, j'étais un peu en mode, OK, après fin août. Ou après le course, comme s'il y avait un no man's land, rien qui allait se passer.
Bien sûr.
Donc je pense que c'est un peu normal d'avoir ça dans la tête, mais je trouvais que ça m'amenait trop de stress et pas un bon équilibre en fait d'appréhender la course comme ça. Donc volontairement et involontairement, parce que les projets sont mis en place aussi comme ça, j'avais plein de choses de prévues en septembre, donc ça s'est quand même bien enchaîné.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, c'est cool parce que ça m'a permis aussi de, déjà, je pense, de passer une bonne course et de profiter de la récup un peu différemment.
Ça me rappelle un peu ton profil, Johan. Ça fait des années qu'on se connaît. Je t'ai connu à travers des championnats d'Europe aussi, des grands rendez-vous. La problématique est la même pour vous aussi, quoi. C'est le fameux lendemain de course et se rebasculer, se dire déjà je digère et puis après je pourrais penser à la suite, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on parle. Des fois, il y en a même qui font pas des burn-out, mais t'as un petit coup de blues, quoi, derrière tes objectifs. Quand le marathon ou ton gros objectif de la saison est passé et que tu t'es entraîné pendant 6 mois sur ça et que tu te réveilles le lundi matin et que t'as plus rien, que tu dois plus aller t'entraîner, t'as du temps pour toi, t'as plus d'objectifs et tout. Effectivement, ça peut être un moment délicat, mais. Comme elle l'a dit, faut vraiment fonctionner à l'envie et c'est l'envie qui doit dicter la reprise. Et moi, je suis même de l'école où je repousse le plus possible pour vraiment créer une frustration et un besoin. Tu vois que d'un seul coup, refaire de la course, ça devienne une nécessité. Tu vois que j'ai vraiment envie d'y aller. Je me crée un manque pour après rebasculer sur un cycle parce que tu vas repartir sur des objectifs quand même assez importants. Et je trouve que c'est quand même ces périodes de repos et de régénération, encore plus dans des ultras où là on est sur des efforts quand même de plus de 20 heures avec des nuits dehors et compagnie, ça demande quand même de régénérer. Il faut quand même que d'un point de vue mental, on prenne le temps de bien récupérer. Et pour le coup, faire d'autres prévoir d'autres activités, je sais, alors partir en vacances ou autre, mais effectivement avoir des activités autres que de la course et se dire voilà, bah, c'est l'occasion, je vais m'occuper de ça, 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 je vais repeindre ça, 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 je vais avoir des hobbies pour
comme
oublier un peu la course.
Comme Ludo Pommeret qui faisait la terrasse de sa fille, quoi. C'est ça, voilà. La semaine d'après.
Non, du carrelage, il faisait.
Carrelage, ouais. C'est ça, ouais.
C'est ça. Et effectivement, c'est quelque chose, au moins tu ne penses plus à la course. Bien et tu es à l'écoute de ton corps et quand tu as envie d'y retourner, tu y retournes. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut mettre en place et pas repartir. Même si tu as abandonné, il ne faut pas repartir le lendemain comme un bourrin en se disant « Ah ouais, j'ai abandonné au 70e, ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Tu vois, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ouais.
Exactement. On est le 1er octobre, le jour où on enregistre, Camille. Est-ce que ça y est, ça titille ? Est-ce que tu as envie de repartir ? Tu as fait l'Ultra Spirit de France Modène qu'on salue et qu'on aurait très envie de faire un jour avec RMC Running, équipe de 3. Peut-être qu'on amènera Maxime Abolin, notre producteur, avec toi, Yodu, et puis qu'on montrera une équipe. Donc, tu es parti là-dessus, mais c'est un événement particulier. Bon, tu pensais pas courir autant, mais bon, c'est pas une reprise non plus officielle. Est-ce que ce manque est créé ? Est-ce que tu as envie d'y retourner, là, ça y est ?
Ouais, bah oui, non, mais là, sur l'Ultra Spirit, j'en profite pour dire qu'il ne faut pas faire ce que j'ai fait là en reprise. C'était un événement qui me tenait à cœur, organisé par François, qui est un bon ami, et un événement qui est vraiment chouette, et que j'ai fait avec Marianne, qui prépare la Diagonale des Fous.
Ouais.
Et voilà, ça me tenait à cœur aussi de participer à sa préparation et à son entraînement. Voilà, sachant que je me disais, bon, si vraiment j'en suis pas capable, je ferai pas tous les kilomètres. Et en l'occurrence, mon corps m'a bien tenu et m'a permis de faire des belles balades. Mais en aucun cas, 3 semaines d'UTMB, il faut aller faire 120 bornes. Et,
non, c'est pas une bonne idée.
Et 8000 mètres de dénivelé sur 3 jours à pas dormir, parce que c'est aussi le concept de l'événement.
C'est sûr.
Donc voilà, mais au final, c'est aussi de faire au feeling. Et oui, non, là, je pense que j'ai bien récupéré. Après... de là à récupérer pour remettre un dossard et repartir à l'entraînement, pas vraiment. Remettre un plan d'entraînement, là, j'en suis pas là quand même.
Ouais, d'accord.
Je pense que j'ai encore besoin de faire vraiment au feeling. Et puis physiquement, je peux pas dire que j'ai récupéré. Je pense que ça prend bien plus de temps pour retrouver des capacités... vraiment retrouver des capacités d'avant-course, c'est bien plus long qu'un mois. Ouais.
Sur l'analyse à froid de ta performance, ta deuxième place à l'UTMB, tu prends un moment pour mettre par écrit tout ce que tu as vécu, débriefer à froid avec ta team, avec ton coach, avec tout ça, voir les points d'amélioration, tout prévoir, etc. Et aussi passer à la planification 2026. Ce travail-là, tu l'as déjà fait ou tu es en plein dedans en ce moment ?
Non, je ne l'ai pas déjà fait. Je suis en plein dedans, je dirais. C'est des choses que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, j'écris beaucoup. J'écris toutes mes courses. J'écris toute l'année, en fait, sur plein de choses différentes, plein de projets différents. Donc, ouais, ça, c'est une partie que j'aime bien. J'ai commencé un peu le débrief avec ma team. Mais je trouve aussi que cette période-là, là, de 3 semaines... j'avais pas envie de débriefer à ce moment-là. Ouais. C'est vrai qu'on m'a dit « Ah, il faut qu'on s'appelle, ah, il faut que je te fasse un mail. » J'étais là, en vrai, j'avais d'autres projets, j'avais des vacances de prévu. J'ai dit « Là, laissez-moi tranquille jusqu'au 30, donc jusqu'à lundi. » Et voilà, donc là, ça va commencer. Après, on sait à peu près les sujets qu'on va. Et puis, c'est vrai que c'est plus efficace. Moi, j'ai déjà réfléchi un peu en amont et c'est effectivement là, le mois d'octobre qui va être chouette pour ça. Ouais.
C'est quoi la suite, alors ?
Bah, la suite, c'est fin de saison, là, avec l'UTMB.
Fin de saison.
Ouais.
Pas de dernier dossard.
Ouais, non.
Tu vas pas à la Réunion, quoi, par exemple.
Non, je vais aller à la Réunion, mais pour assister les copains et participer à la grande fête de Lille. Déjà, je fais pas des saisons à rallonge. Et c'est vrai que en fait, bizarrement, cette année, je pourrais avoir envie de remettre un dossard. Mais je me dis que ce serait peut-être hypothéquer un tout petit peu la saison prochaine. Donc voilà, en fait, j'ai pas de stress là-dessus. J'ai une envie, mais pas de grosse envie particulière d'une course que je rêve de faire là, qui est en fin d'année aussi. Donc à mon avis, il n'y a rien qui se passera, ou alors un projet un peu plus off, mais tranquille, ouais.
Parce qu'il y a ça aussi, vous avez tous des profils différents, mais nous, quand on vous reçoit, on adore raconter tout cela, mais on a vu Mathieu qui a fait des courses au Canada extraordinaires, qui a fait de la voile, des traversées, etc. On a vu la dinguerie de Kylian Jornet, c'est 3 jours avec 13 sommets à plus de 4000 mètres. C'était complètement fou. 163 km, 11 000 de D+, 56 heures, lui est complètement timbré, Kylian, évidemment. T'as ce côté aventure ou toi tu veux rester sur la perf, le 100 miles et continuer à aller chercher des victoires de prestige ?
Non, bah moi le côté aventure m'anime énormément dans ma pratique et dans l'entraînement, et encore plus confirmé cette année avec les 14 000 que j'avais eu la chance de partager avec vous aussi. Ouais. Et on avait déjà un peu débriefé sur ce sujet-là, et ouais, moi j'ai vraiment compris que ça m'animait beaucoup.
T'as besoin de ces soupapes, c'est pas de côté sur d'autres défis personnels, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est quelque chose que j'avais conscience, mais que j'avais peu mis en place dans les années avant. Et c'est vrai que là cette année, j'ai vraiment pris la décision de prendre le temps de faire ça, autre que des dossards, et ça confirme que ouais, j'en ai vraiment besoin. Alors après, ça veut pas dire en faire tous les mois et se lancer dans des projets à outrance tout le temps, mais ouais, non, préparer, bah déjà la préparation, faire des belles traces, et moi ça anime un peu tous mes entraînements en fait. Voilà, la blague, c'est que j'aime pas faire des sentiers déjà que je connais par cœur. Ouais. J'aime toujours aller découvrir même une petite rallonge ou faire des allers-retours, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien quand ça fait des belles boucles sur Strava.
Les tours de piste avec Johan, ça t'intéresse pas, quoi.
Ouais. Les tours de piste, c'est souvent je chambre les copains qui font ça, quoi. C'est une bonne guerre, mais voilà. Donc après voilà, je dis pas que je le ferai jamais, puis des fois t'as des conditions de vie qui font que t'es obligé, mais en l'occurrence j'ai le choix en ce moment, et ouais.
Non, c'est juste que Johan, il est pas aventurier, il a la flemme, hein. Il va à la piste à côté de chez lui, il fait des tours de piste comme une souris de laboratoire, puis après il revient, c'est tout, hein.
Tu tournes dans un sens et après dans l'autre.
Comme ça, c'est réglé. Tu
ça change de. Quoi. Et je te jure que rien que de faire ça, ça change la vue.
Voilà, rien que de changer de sens sur la piste. Bon, faut pas croiser des scolaires parce que là, ça peut faire un carton.
Ah oui,
ou alors, faut libérer un couloir, ça c'est sûr. Donc, t'es pas projeté sur 2026. Tu sais pas quel grand 100 miles tu vas viser. Pas encore.
Non, j'avoue que je sais pas trop encore. Là, j'ai déjà bien 4 ans fait les 4 plus grands. Ouais. En tout cas, on a un peu 4 grands majeurs là en ultra. Donc voilà, j'ai encore 2 courses que j'ai envie de cocher, plus sur des 100K. Donc revenir un petit peu à des distances que j'apprécie beaucoup encore, comme le Madère Ultra Trail, ouais, 90 du Mont Blanc. Des courses que j'ai toujours pas cochées et que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire, mais pour X raisons, j'ai pas pu ces dernières années. Donc voilà, ça va.
Je crois qu'on l'avait raconté avec Lambert Santelli, qu'il avait gagné le Madère. Ouais, et il nous avait dit que c'était fantastique.
Ouais, je pense que ouais, ça fait très longtemps que je voulais la faire. Après, elle est un peu tôt en début de saison, elle est au mois d'avril.
Exactement.
Donc nous, on, voilà.
Et encore,
on
met... te préparer. Avec
ouais,
Lambert.
Voilà, faut que j'aille avec Lambert me préparer. Ouais, je pense que ça fait une bonne idée. Donc voilà, et puis pour l'instant, ouais, il n'y a pas de gros 100 miles qui me viennent à l'esprit. Donc à voir, est-ce que je me ferai. Ça fait longtemps que je parle aussi de faire une saison, peut-être sans faire 200 miles.
Ok.
Pour, voilà, l'année dernière, après l'Hard Rock, je n'avais pas débriefé avec vous, mais voilà, j'exprimais vraiment ce besoin de peut-être justement, est-ce que cette distance est faite pour moi ? Donc là, je suis un peu réconciliée avec, mais voilà, vraiment, j'étais un peu. J'avais passé une période un peu difficile de me dire, en fait, je ne suis pas sûre de vouloir continuer, il faut peut-être que je me fasse une année sans faire 200 miles. Et à la fois, bah, je sais que c'est ce qui m'anime aussi, ce côté, je ne sais pas si je vais finir, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est l'aventure bien plus qu'un 100K que je sais que je maîtrise, quoi. Donc voilà, je suis un peu partagée entre les deux, et donc voilà, à voir si l'année prochaine j'en fais un ou pas. Et si après je m'empêche pas de retourner sur l'UTMB si tout est aligné et que tout va bien, ou une TDS aussi qui me fait bien envie début août, ou une échappée belle dans Belledonne. Voilà, c'est pas les idées qui manquent, mais à peaufiner.
Et on peut te voir à Chamonix à la fin du mois d'août 2026.
On sait pas.
C'est possible.
Peut-être avec Johan sous les plaids.
Eh, pourquoi pas. Ça, c'est une bonne idée.
Ah, c'est une bonne place, hein.
Ah ouais, c'est la meilleure. Et puis au moins tu dors. C'est ça le truc pendant la nuit, c'est plus tranquille. Camille, c'était passionnant de t'écouter. Passons tout de suite au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Avec un magnifique produit, allez voir sur YouTube parce que je l'ai entre les mains. Alors là, attention, les frères chaussettes qui les nous ont envoyé des chaussettes magnifiques aux couleurs d'RMC Running, avec le logo d'RMC Running, avec le maître Yodu, voilà, le by RMC Sport, avec la phrase de fin, et là je suis très fier et je les remercie d'ailleurs, courir ça aide à respirer, donc c'était vraiment un très beau cadeau qu'ils nous ont fait, et on est ravis d'accueillir Loan Godard qui est en studio avec nous. Salut Loan.
Salut.
Quelle réussite, bravo, hein, déjà, les frères chaussettes, très bonne idée, se dire on se lance dans la chaussette personnalisée. Vous êtes de quand au départ? Vous êtes une bande de potes, je crois.
C'est ça, donc les frères chaussettes, c'est né en 2020 pendant le Covid, avec mon petit frère finalement.
Et voilà.
Moi j'étais étudiant en école d'ingénieur et on a lancé le projet, on s'est dit bon bah on n'a rien à faire, donc autant faire un projet. Et on a étudié un peu le monde de la chaussette parce que nous on était beaucoup dans le basket, on jouait au basket à la base. Et en fait il y a un gros besoin pour les équipes de faire du merch pour les équipes, mais à part les sacs, les jogging, etc., ce qui se fait beaucoup, il n'y avait pas de solution pour les chaussettes à petite échelle. Et du coup, nous, on a découvert une méthode d'impression qui permet de personnaliser les chaussettes à l'unité. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 5 ans.
Et c'est beau, hein, parce que nous, on parle de running. Et d'ailleurs, vous faites de la chaussette de qualité, parce que moi, j'ai pu les tester. Et c'est vraiment de la qualité, tu le sens quand tu cours avec. Mais c'est multisport. Vous avez même des accords avec certains clubs professionnels, notamment de foot et de basket. Hein.
Tout à fait. Nous, on a commencé par le basket. On a été invité au K54 en 2023. C'est là qu'on a mis un premier pied dans le monde plus ou moins professionnel.
Le K54, ça réunit les stars du basket français et quelques stars aussi.
Tout à fait. Ils disent que c'est le championnat du monde de streetball, de basket urbain. Et en fait, petit à petit, en évoluant, on travaille aussi avec des clubs pro comme le FC Nantes au foot, le HAC au foot également, c'est où là, en fait, on distribue dans les boutiques des chaussettes pour les fans. Et on a commencé à courir avec mon frère en 2023. Et donc, petit à petit, on s'est intéressé au monde du running, aux équipements, etc. Et c'est là qu'est arrivée la chaussette, finalement, qu'on était déjà dans la chaussette de basket. On a conçu notre chaussette de running il y a environ un an et elle est sortie il y a à peu près 2 semaines.
C'est quoi la différence, toi qui es ingénieur, entre une chaussette de basket et une chaussette de running?
Alors moi, je suis ingénieur en informatique, pour préciser. Mais du coup, la grosse différence, ça va être au niveau de la maille qui va être plus fine sur du running, ouais. Même si on garde un certain renfort sur le pied. Mais en fait, la méthode de personnalisation va être la même. Et nous, on utilise le côté ingénieur parce qu'en fait, on a créé tout notre site web de zéro qui permet aux gens de personnaliser directement en ligne, à l'unité. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur notre site, mettre son nom, son numéro, son logo initialement pour le basket ou le logo de son club de running pour le running.
Voilà, donc c'est beau. Si vous courez entre potes et vous avez donné un nom à votre club, et ben voilà. Vous allez sur le site des Frères Chaussettes et comme ça, vous pouvez personnaliser vos chaussettes.
Exactement. Pour exemple, nous, on travaille beaucoup avec Running Paradise, qui est un running club de Caen. Il y a beaucoup de running clubs qui montent en ce moment. Ouais. Running Paradise, c'est un running club qui a été créé il y a environ 2 ans. Aujourd'hui, hier soir, par exemple, on était en face de l'hôtel de ville de Caen. On était 200 coureurs. Et en fait, c'est vraiment un club qui est non officiel. C'est vraiment pour partager un run entre amis. Et là, en fait, en 2 semaines qu'on a sorti notre gap running, c'est vrai que le mardi à Caen, il y a beaucoup de chaussettes Running Paradise dans les rues. Quoi.
Et voilà, ça c'est une fierté personnelle, j'imagine.
Ah, tout à fait, ouais, carrément.
C'est sûr. Les chaussettes que tu fais à Caen, tu les fais anti-imperméables, anti-pluie.
Ouais. C'est pas les mêmes que pour le Sud.
Non, pas vraiment. C'est vrai. Caen a une réputation de pluie, même si, je vais être chauvin, il pleut pas tant que ça. Non,
ouais, non, mais c'est sûr. L'enjeu pour toi sur de la chaussette de running, c'est déjà que le logo, la durée de vie du logo soit longue. Est-ce que le logo s'efface avec le temps? Et c'est aussi la durée de vie de la chaussette, tout simplement. Ouais. C'est ton défi, il est là finalement.
Ouais, nous on travaille avec le même fournisseur depuis 5 ans, donc on a du recul sur la chaussette de base. Et la personnalisation, elle bouge pas au lavage parce qu'on n'est pas sur du flocage ou le flocage.
C'est vrai. Tiens, déjà... Camille, regarde, touche.
Vous avez déjà peut-être eu un maillot de votre oui. équipe de foot quand vous étiez jeune, ça commence à se décoller.
Il n'y a plus les lettres.
Le numéro, il n'est plus là au mois de décembre, c'est ça. Ouais.
Et du coup, on n'a pas voulu faire ça, parce qu'en plus, sur les chaussettes, ça s'étire. C'est de la sublimation, en fait.
Quand on étire, ça, c'est pas du tout une image collée sur la chaussette. Quoi. C'est vraiment intégré dans le tissu.
Techniquement, on peut même mettre une photo, nous, sur la chaussette.
En fait,
on n'est pas sur du flocage, donc ça n'arrive pas.
Sur le talon, la tête de Johan, parce qu'il a toujours mal au tendon d'Achille.
Voilà,
pourquoi
magnifique.
Pas, c'est une bonne idée. Non, franchement, c'est top. Au niveau des coloris, là, t'as envoyé des chaussettes blanches, on peut les prendre de toutes les couleurs aussi.
Alors, la contrainte du coup de la méthode d'impression, c'est qu'on peut imprimer que sur du blanc.
Ah, que sur du blanc.
Mais
d'accord.
Vous pouvez choisir toutes les couleurs des modèles à imprimer. Quoi.
T'as un peu de recul, t'as une idée de la durée de vie de ta chaussette?
Nous, sur des chaussettes du goût de basket sur lesquelles on a du recul, moi, je les ai encore. Je portais celle du K54 2023 hier. Donc, elle dure vraiment longtemps.
Ah oui.
En fait, l'usure, ça va se faire au niveau de la chaussette comme une usure. Comme une chaussette classique,
ouais.
Mais pour le coup, le design va vraiment pas bouger, ça c'est garanti à 100%.
Ok, et moi je te remercie parce que tu m'as envoyé des chaussettes personnalisées et du coup je fais de la pub gratos à Paris, comme ça, comme je cours avec, voilà, je me dis pub pour RMC
mais
Running.
Mais tu cours trop vite toi, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de lire tes chaussettes.
Non t'inquiète, parfois les footings vont pas très vite et du coup je vais sur les spots bien connus des coureurs parisiens et les couleurs des RMC Running sont bien représentées. Si on veut vous acheter, c'est forcément sur le site internet?
Non, en fait du coup sur le site internet on a des modèles déjà préexistants sur lesquels on peut ajouter un logo, changer les couleurs, ouais. Mettre un nom, etc. Si on veut faire un modèle 100% personnalisable comme celui-ci,
ouais.
Là ça passe plutôt en message, mais il suffit de nous contacter sur Instagram. Y a
pareil,
pas
Instagram, on c'est vient ça. Vous voir, on vous dit moi j'ai un club de tant de coureurs, je veux te...
Tout à fait.
D'accord.
Et sinon on le fait aussi lors d'événements. Typiquement ce week-end il y avait la foire de Caen, les 10 km de la foire.
Ouais.
On était à l'arrivée, on a distribué des chaussettes finishers à tous les finishers.
Okay.
Et on avait un stand en fait à 100 mètres de la ligne où les gens ils nous envoyaient des photos, ils voulaient mettre des blagues avec leurs copains, donc ça se faisait en direct avec eux.
Ah, c'est une réactivité, ouais. C'est impressionnant, tu peux faire ça très rapidement.
Tout à fait, nous on ramène l'ordi, les machines et en 10 minutes on fait en direct.
C'est fou ça.
Ça peut être un beau cadeau. Hein.
Bah non, mais c'est un super cadeau. Alors,
ouais.
Franchement, elles sont belles, hein,
ouais,
Camille,
ouais,
entre les mains.
Sympa.
Franchement, c'est vraiment un beau cadeau. Vous allez rester sur les chaussettes ou tu penses partir sur le textile? Est-ce que c'est une évolution naturelle?
Pour le coup, nous, c'est les frères chaussettes, donc voilà. On est voué à rester sur la chaussette.
Pas les frères t-shirts, quoi.
C'est ça, exactement. On en demande beaucoup. Mais pour l'instant, on est vraiment à fond dans la chaussette.
Tu peux faire des chaussettes de compression, des chaussettes un peu.
Ouais, tout à fait. En fait, l'idée là, c'est de. Donc, on a deux gammes, donc la gamme multisport et la gamme running. Mmh. Et l'idée, ça va être d'évoluer avec le temps. Nous, on est encore vraiment à nos débuts, donc on prend notre temps là-dessus. Et la personnalisation fait qu'on peut diversifier les modèles, mais pour l'instant, on a que deux bases. Et l'idée, c'est d'évoluer petit à petit, quoi.
Enfin, je lisais un article sur vous. Vous êtes même vous-même bluffé par la réussite de votre entreprise familiale au départ avec ton frère, parce que vous avez changé trois fois de locaux.
Bah, carrément, en fait. donc moi, j'ai commencé en 2020 dans mon sous-sol, dans le sous-sol de mon papa.
Ok.
Et en fait, en un an, on a déménagé trois fois parce qu'on avait, on s'est dit bon, allez, on va prendre 10 mètres carrés, ça va suffire. En fait, du jour au lendemain, enfin en trois mois, on était déjà plein. Du coup, on a pris 50 mètres carrés. Du jour au lendemain, on était déjà plein. Et du coup, en fait, on est passé, si vous voulez, en un an, pour vous donner un ordre d'esprit, un ordre de grandeur. On était trois il y a un an. Aujourd'hui, on est une douzaine.
Ah, c'est bien.
Et on produit du coup tout à Caen en direct des locaux.
Et quel est l'intérêt pour un club comme le FC Nantes de signer un partenariat avec toi? Qu'est-ce que tu leur apportes?
Et ben en fait, pour eux, c'est amener un produit personnalisable pour leurs fans, ou même pour les
licenciés. Ah, c'est du cadeau, quoi. C'est pas ça. Pour les professionnels.
C'est ça. Nous, aujourd'hui, on est dans la boutique du FC Nantes.
Okay.
Donc, si toi, tu vas dans la boutique du FC Nantes demain, tu vas dire, je veux la boutique en ligne, je veux une paire numéro 10 avec mon prénom. Et ben nous, le FC Nantes va les recommander chez nous et les envoyer directement chez les fans. Donc en fait, ça évite au FC Nantes de commander du stock, mais quand même, ça leur permet de pas avoir à assurer toute la production, mais quand même de proposer des produits personnalisables.
C'est brillant, bravo. Et si on veut un logo générique général, vous avez des propositions aussi sur le site?
Ouais, nous, on a une sélection de logos avec plein de logos autour de plus ou moins tous les sports. Tu peux aussi même importer un logo, et en fait, dans la partie importer un logo, tu peux importer une photo. Donc tu peux vraiment mettre ce que tu veux sur la chaussette. Nous on a eu des paires un peu drôles.
Ah ouais. Ah,
on a eu des photos de copains un peu éméchés, un peu dénudés.
Okay,
et là récemment on a fait une collaboration avec Tomasio, un trailer sur Instagram qui fait pas mal de bêtises, qui fait bien rire. Et lui, il a créé une paire donc personnalisable qui s'appelle Bouffe-moi les pieds.
Ah, c'est ça que j'ai vu, c'est ça, je cherchais la phrase, c'est ça.
Et donc, tu peux personnaliser la partie à bouffer, donc tu peux changer les pieds pour autre chose. Et là, pour le coup, on a eu des choses dont je parlerai pas ici, quoi.
Ça peut plaire à Camille, regarde Camille avec les petits cœurs, le Bouffe-moi les pieds, comme ça, les petits cœurs roses, vous allez voir sur le site.
Magnifique.
Il y en a un que j'aime bien et que Johan peut porter, c'est le ta gueule est court.
Ou le local légende. Il y a un local légende aussi.
Local légende, ouais, ça peut être pas mal.
Et sur cela, par exemple, le ta gueule est court, tu peux changer les couleurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait directement en ligne.
Et la couleur, la phrase, tu choisis ce que tu veux. Et
En fait, du coup, nous, on a des modèles pour aider les gens pour que ça soit plus simple pour eux.
D'accord.
Mais si vraiment tu veux une phrase spéciale, il faut venir nous voir, c'est plus simple.
Écoute, bravo. Et franchement, merci pour pour les chaussettes personnalisées envoyées. C'est vrai que nous, avec Johan, on nous demande tout le temps des produits dérivés des RMC Running. Alors,
oui.
Nous, on a eu la chance d'avoir des hoodies une fois qu'on a réussi le record du monde RMC. Et ils sont très demandés, malheureusement on n'a pas de stock. En revanche, on va créer avec toi un stock RMC Running.
Avec plaisir.
Et on va en faire gagner à la communauté. Donc ce qu'on peut demander d'ailleurs aux gens, c'est d'aller suivre les frères Chaussettes sur Instagram et également de nous suivre et de laisser un message comme ça. Voilà, vous aurez toutes les indications sur nos réseaux sociaux, mais allez-y, parce que Camille, Bruyas vous le confirme, sont des chaussettes de qualité et très sympas. On a envie de les porter, celles-là.
Ouais, à tester sur 24 heures, quoi.
Bon, ouais, c'est un autre délire. Là, c'est sûr, maintenant il faut des chaussettes de trail qui peuvent tenir la route, mais là il n'y a pas de doute, quoi.
Dans la pluie, la neige et tout, là. Ouais.
La chance que tu as, c'est que Johan, il fait 2h10 au marathon, donc ça va plus
vite. Ouais, ça va vite.
Et ben, merci beaucoup en tout cas
avec
d'être
plaisir,
venu.
Merci
et bravo pour le boulot. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Camille qui était là en studio à Paris.
Ouais, merci.
Tu reviens quand tu veux.
Ouais,
on peut le faire
Paris.
À distance, hein, si tu préfères éviter la pollution, tu peux revenir à distance, il n'y a pas de problème.
Merci, toujours
bravo
un bon moment.
Pour cette deuxième place, plaisir partagé vraiment. Merci au maître Yodu, merci Johan.
Merci à tous.
On t'embrasse. Et
bonne prépa UTMB, Johan.
Exactement.
Ouais.
On a hâte de voir ça. Ça arrivera un jour.
J'espère.
Tu souris, mais ça arrivera un jour.
Mais c'est sûr.
Et peut-être plus vite qu'on croit.
Il est tombé dans la marmite, là.
Ouais, c'est sûr.
Bon, c'est parti.
Pour la course enfant.
Et on te fera l'assistance. Alors, si jamais ça arrive, je veux des fan clubs, des fan zones Johan Durand sur le parcours de l'UTMB. On mettra ça en place parce qu'il faudra l'encourager. Merci à tous et toujours ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.